Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Avec dans l'actualité du jour, il n'y a pas trop d'actualité, les championnats sont terminés, mais quand même. Et nous parlerons de l'OL sous pavillon américain. Après 35 années comme propriétaire du club de Lyon, l'homme d'affaires Jean-Michel Aulas passe la main à John Textor, un investisseur américain, propriétaire et actionnaire de plusieurs clubs de football. Entre autres activités. Le football français se vend très bien ces temps-ci. La moitié des clubs de Ligue 1 sautent aux mains d'investisseurs étrangers. Pourquoi cette déferlante ? Les Mimos sacrés champions à 4 journées de la fin du championnat ivoirien. Rappelant les grandes heures de la belle histoire des jaunes et noirs, le club d'Abidjan est même invaincu. Le restera-t-il jusqu'au bout ? Et puis aujourd'hui, c'est l'été en France, même sur les thermomètres et dans l'hémisphère nord plus généralement. C'est aussi le jour de la fête de la musique. Et dans cette émission, eh bien, on va faire aussi la fête de la musique. On va en écouter un petit peu sans perdre de vue, bien entendu, notre sujet qui est toujours le football, n'est-ce pas, Nabil Djellit ? Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Écoutez, je vous promets peut-être un pas de danse en fin d'émission.
D'accord, dans le studio, mais on va filmer, on va le mettre sur la page Facebook.
Tant qu'il chante pas, ça va.
Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à
nos
tous.
Nos duettistes d'habitude du soir, n'est-ce pas ? Mais bon, exactement. La Ligue des Champions en ce moment, il n'y en a pas. Donc...
Elle est au chômage, quoi.
Oui, elle est au repos peut-être. Hein. Je crois que les joueurs, ils en ont besoin et qu'ils l'avaient demandé. Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous aussi, vous allez danser ?
Bah oui, je vais danser.
Mais vous n'avez pas déjà dansé récemment, là ?
Ah oui,
j'ai des tuyaux. Hein.
Non, mais on n'est pas sérieux.
Laurent Salerno est à la réalisation. Sarah Loubacouche m'a aidé à préparer l'émission. Radio Foot, c'est parti. Presque tous danser dans ce studio. Hein. À quoi vous pensez quand vous entendez cette chanson, Patrick Juillard? Je vous vois sourire.
Moi, je pense à mes compiles les années disco, parce qu'en fait, c'est pas la version qui a été utilisée quand la France a gagné la Coupe du Monde, qui était une reprise un peu façon dance. Et là, c'est l'original de Gloria Gaynor de 75.
1978.
À 18.
Ouais. 78.
D'accord, mais je me suis trompé de quelques années. Oui.
J'ai vérifié.
Pardon.
Mais vous pensez à vos années disco et
moi,
vous,
je pense surtout aux Champs-Élysées en 98. Ah, voilà. Et Zidane président sur, en hologramme sur l'Arc de Triomphe. Et c'est vrai que ça reste pour moi un souvenir absolument inoubliable et émotionnellement extrêmement fort.
La victoire des Bleus en 1998.
98.
La première étoile.
Et, puis
et vous aussi, Yoro, même à Dakar, on écoutait ça ?
Parce qu'il y a quand même une forte colonie française à Dakar et en plus...
Des supporters peut-être un peu aussi.
Des supporters parce que les gens, ils adorent aussi les Bleus à Dakar et c'était notre manière à nous de participer à cette Coupe du Monde.
Vous les adorez tellement que 4 ans plus tard, vous les avez battus.
Ah, ça, je dirais pas.
Et vous étiez champion du monde selon
Et puis cette Coupe du Monde, elle était magnifique pour nous parce que c'était la première fois que le Sénégal participe non officiellement, bien sûr, parce que Youssou N'Dour avait ouvert cette Coupe du Monde avec un drapeau du Sénégal sur son micro.
Alors on va y venir, mais pour la petite histoire, cette chanson-là en 1998, en fait, donc c'était effectivement un remix.
C'est Hermès Houseman.
Voilà. Une version remixée alors du succès de Gloria Gaynor des années disco. Et en fait, c'était Vincent Candela, un des Bleus de champion du monde, qui écoutait cette chanson en boucle. Et notamment, il l'écoutait et il l'a partagée avec ses copains. Parce que la phase de poule, on s'en souvient tous, elle avait été un peu compliquée avec l'exclusion notamment de Zinedine Zidane. Et « I will survive », le titre de la chanson, ça veut dire évidemment je survivrai. Et donc,
à pas confondre avec je te survivrai de Jean-Pierre François,
ancien joueur de l'AS Saint-Étienne.
Oh, oui, mais alors là, on n'est pas rentré dans cette dimension.
Vous voulez qu'on chante ?
Non, non, pas du tout. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que Gloria Gaynor, elle a, à la suite de ça, elle a quand même été alertée que sa chanson était devenue un hymne en France et ailleurs. Et elle a dit, elle a rencontré l'équipe de France. Une fois, on l'a invitée à donner le coup d'envoi d'un match. Elle raconte qu'elle était tellement honorée qu'on la surnomme la marraine des Bleus, que chez elle, elle a un immense poster de l'équipe de France de 98 et que quand ses amis viennent à la maison, bah, elle leur raconte cette belle histoire d'une chanson qui renaît 20 ans après et qui, dit-elle, a inspiré un groupe et peut-être une nation. Donc, c'était la belle histoire. Et justement, Yoro, puisqu'on est en 1998, on vous a demandé de choisir des chansons comme ça qui, immédiatement, quand vous l'entendez, vous rappellent un événement ou un moment football. Eh bien, la vôtre, c'est celle-ci.
4 années ont passé, mais dans les regards, je peux voir cette soif de victoire. Le stade est bondé, supporters surexcités. Tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez!
À ton tour de jouer.
Yoro, qu'est-ce que c'est que cette chanson? Alors évidemment, on l'a reconnue ici sur RFI et dans Radio Foot, c'est Youssou N'Dour.
Ça s'appelle, le titre, je crois, La Cour des Grands. On n'y était pas invité, mais Youssou N'Dour, grâce à lui, on y a participé. Voilà. Et il avait ouvert la Coupe du Monde 98 aux côtés de Axel Red. Mm-hmm.
C'était l'hymne officiel de la Coupe du Monde. Et un des hymnes officiels, on va dire, quand même sympa, Patrick Juillard.
C'est mieux que Johnny en 2002. Hein.
Ça nous a pas porté chance en 2002, c'est moins qu'on puisse dire.
On méritait pas avec cette chanson.
En Afrique du Sud, l'hymne était sympa, si je me souviens bien.
Oui,
Waka Waka.
Ça avait quand même été assez marquant comme hymne. Et une réussite. Je pense.
Une belle réussite.
Et au Brésil, c'était quoi, Annie, alors?
Eh ben, je ne m'en souviens pas.
On va essayer de...
Et pourtant, les Bleus sont allés assez loin. Mais c'est vrai qu'au Brésil, je pense qu'il y a tellement de musique et tout. Et dans les stades, j'avoue que je ne me souviens plus de l'hymne. Parce que l'hymne, des fois, se choisit par la FIFA.
Nous, cet hymne, c'est parce que c'était notre manière à nous de participer à une Coupe du Monde. Youssou N'Dour chantait au Stade de France avec le drapeau du Sénégal autour du micro. C'était génial. Notre première Coupe du Monde non officiellement en 2002. Voilà.
Et récemment, il a chanté pour le retour des champions d'Afrique, n'est-ce pas ?
Sympa.
Son concert à l'université Cheikh Anta Diop pour fêter les Lions à sa manière.
Le retour des champions d'Afrique. Il a chanté aussi au bord de la Seine il n'y a pas longtemps et il avait dédié carrément
Morceau. Samedi soir.
Samedi soir, exactement.
On voit Sadio Mané tirer son pénalty.
Sympa.
Et magnifique. Et avec une très belle chanson. Et on voit le pénalty en boucle et la joie.
C'est son côté ambassadeur du monde, son premier groupe, en fait. Les ambassadeurs.
Exactement, mais surtout ambassadeur de ce groupe de football. On continue en parlant de sélection et de football. Nabil Djellit, à vous la balle. Alors, on va écouter ce que vous avez choisi. ساكنة في قلبي قالي في وإن شاء الله يا ربي في بكري ما جهزت بلومي
c'est de l'arabe algérien avec de l'arabe dialectal.
Alors, qui chante et quoi ?
Alors, c'est un groupe qui s'appelle, qui a en plus une référence au football italien, parce qu'on sait que dans la capitale algérienne, il y a beaucoup de supporters de la Serie A. Donc, le groupe, c'est Torino Milano. Donc, Torino,
en référence Milan.
Milano. Et c'est une musique qui correspond à la période de 2009-2010, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'équipe d'Algérie allait retrouver une Coupe du Monde 24 ans après. Il y a eu un engouement absolument incroyable et aussi une production musicale très importante autour de la sélection algérienne. Et pour moi, c'est un souvenir qui est à la fois sympa, mais comme souvent avec l'Algérie, à la fois un peu difficile parce que c'était aussi à ce moment une qualification qui avait été très très compliquée
Fameux match à Om Durman.
Voilà, face à l'Égypte. Donc ça me renvoie aussi à un moment un peu de stress parce que Il y avait eu cette équipe d'Algérie qui avait été agressée au Caire, qui avait perdu au Caire et qui ensuite était partie remporter sa qualification du côté du Soudan. Donc c'est toute cette époque-là. Et puis surtout le retour de l'Algérie sur le devant de la scène 24 ans après sa dernière participation, 86.
C'est aussi une période un peu amère pour les supporters des Bleus, puisque la qualification de l'Algérie, c'était l'après-midi avant le fameux France-Irlande et la main de
Thierry Henry.
La polémique
le même
sur
jour.
La main de Thierry Henry qui allait... qui augurait d'un mondial absolument catastrophique pour les Bleus, mais bon, c'est une autre
c'était
époque.
C'était un mauvais signe.
C'était
et
une
on
époque
l'avait...
De succès un peu amer pour ces équipes.
Ouais. Et pour traduire, donc, à l'Algérie, Saknaf et Kelbi, ce qui veut dire en gros Kelbi, c'est le cœur en arabe, qu'on trouve dans beaucoup de musique orientale, c'est l'Algérie habite dans mon cœur. Mmh. Voilà.
D'accord. Alors voilà pour ce qui est de l'Algérie et des Fennec. Nous, on connaît 1-2-3, vive à l'Algérie.
Voilà. Hein, mais il y a une histoire refrain. Autour de 1-2-3, vive à l'Algérie.
Allez-y.
Bah parce qu'en fait, c'est I want to be free, c'est-à-dire c'est un hymne qui est
c'est une parodie.
Voilà, qui est par rapport à la période de la colonisation, qui a été ensuite déformée et reconstruite autrement. Et ça a été entonné, je crois, les premières fois lors des Jeux méditerranéens en 1975, et notamment lors d'une finale entre l'Algérie et la France à l'époque. Et pour la petite histoire, c'est aussi la première fois qu'on appelait l'Algérie les Fennec, parce qu'en fait, la mascotte de cette compétition des Jeux méditerranéens, je crois Christophe Jousset va couvrir pour RFI à Oran.
Bah
pour
et Farid Achache.
Et Farid Achache également.
Dans quelques jours.
Pour la première
là.
Fois, apparaissait ce Fennec, en fait. Voilà quoi. Parce que le surnom d'Algérie, c'est les Fennec, les Verts. Mais les Fennec, c'était
origine.
À partir de 75.
Il y a une origine.
Voilà pour la petite histoire.
Alors, en parlant de sélection, eh bien, il y a eu ce refrain, et je suppose que vous vous en souvenez tous, même que ceux qui l'ont écouté, ben, ils ont obéi. Alors ça c'est VG Dreams et c'est ramener la coupe à la maison.
On se rappelle du déhanché de Samuel Umtiti. Oui.
Et c'est Benjamin Mendy aussi,
ouais,
je crois.
Ouais. Lui par contre il s'est déhanché
autrement
par la suite.
Après. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était lui l'ambianceur, on s'en souvient, de ce groupe.
Et Kimpembe, maestro.
Et Kimpembe, exactement. Et ils ont beaucoup chanté.
Aussi.
Et ils ont donc ramené la coupe à la maison, ils l'ont ramené de Russie, de Moscou, où à l'époque, on jouait tous au football. Patrick Juillard, vous avez choisi une autre musique, un autre genre, un autre style.
Oui.
Un peu plus sage, on dirait, c'est étonnant d'ailleurs.
Ah bon, vous trouvez.
On trouve, on s'endort pas, mais... Alors là, on est dans la musique électronique, Alan Parsons
Project.
Début
années 80.
Exactement.
Et en fait, cette musique, c'était la musique qui accompagnait l'entrée des joueurs de l'OGC Nice au Stade du Ré lors des matchs, les premiers matchs auxquels j'ai assisté.
Quand vous étiez petit, voilà.
Dans les années 80, quand j'étais haut comme trois pommes. Mm-hmm. Déjà, je ne suis pas très grand aujourd'hui. Et donc, c'est un souvenir inoubliable. C'est les premiers matchs, la lumière si particulière d'un stade, la nuit, le vert intense de la pelouse, les projecteurs... cette lumière blanche assez puissante et rasante. C'est un vieux stade un petit peu, mais à la fois très beau parce qu'il dominait la ville. Et lors des matchs en journée, on pouvait voir la mer en tournant le dos. Enfin, il y a des souvenirs liés à cette musique. Et je voyais les gladiateurs de l'OGC Nice qui me faisaient rêver quand j'étais gamin, rentrer. Donc les Biekovic, les Daniel Sanchez, les... Curbelo et voilà tous ces joueurs fantastiques. Bon, ensuite les années ont été beaucoup plus difficiles pour l'OGC Nice, mais ça c'est plus effectivement les années milieu 80, début 90, et ça a encore duré même jusqu'aux années 2000 pratiquement.
Vous auriez pu citer Jules Bocandé quand même, il était dans cette
aussi équipe. Jules Bocandé, Ndioro, El Hadaoui, mais c'était
Carlos
un petit
Bianchi
peu plutôt
oui,
Carlos Bianchi qui était l'entraîneur.
L'entraîneur exactement, voilà, donc il parle souvent de Jules Bocandé.
C'est toute une époque fabuleuse pour les fans de l'OGC Nice.
L'OGC Nice a changé de stade, a changé de musique.
Alors oui, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de musique attitrée, mais en revanche il y a la tradition de chanter l'hymne Nice à la Bella à la mi-temps ou au début du match. Alors je trouve que c'est un très bel hymne et je trouve qu'il n'est pas festif, donc il n'est pas très adapté au football. Après c'est un avis personnel.
Alors pas très loin de Nice, eh bien, il y a un stade très fameux.
Ah.
Qui s'appelle le Vélodrome. Et là, il y a une musique emblématique. Habib Bey, quand il entendait ça dans le studio, il ne pouvait pas se retenir. Alors là, Nabil, ah oui, hein, mythique, quand on va au stade Vélodrome, je crois qu'on se souvient tous de cette musique, des réactions des spectateurs. Et que ce soit l'ancien ou le nouveau Vélodrome.
Oui, et puis surtout, ça renvoie à la période un peu glorieuse de l'OM en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe des clubs champions. C'est aussi ça, avec ce Vélodrome à ciel ouvert, cet écran à ciel ouvert, avant sa rénovation, entre guillemets, ou du moins sa transformation. Alors là, je sais que Patrick, lui, est vachement, enfin, pas, adore ça, mais la chance des Marseillais, c'est que le Vélodrome, bah, il est toujours dans le centre de la ville. Ah, et bah oui. C'est ça qui lui donne un cachet supplémentaire. Quoi. Il n'est pas en extérieur, vous n'êtes pas osé de passer par des zones.
C'est ce qui aujourd'hui manque beaucoup à Nice avec ce stade en périphérie,
entre des
magasins d'usine et des bretelles d'autoroute.
C'est un stade aussi qui sert beaucoup à des concerts également. C'est une manière aussi de rentabiliser.
Que, par exemple, un PSG OM, enfin OM PSG, quand on entend la musique de Van Halen, ça lance quand même les hostilités.
Hein. Ah, oui, surtout dans les couloirs à l'époque, ça. Il y avait des coups de poing, des coups de pied, et puis raconté par pas mal de joueurs à l'époque qui relataient ces matchs épiques entre ces deux équipes.
Alors, d'un côté, il y a l'OM, et de l'autre côté, bon, quand même, il y a le PSG. Alors ça, c'est quand on va au Parc des Princes et qu'on voit rentrer les stars d'aujourd'hui, c'est-à-dire Neymar, Messi, évidemment Mbappé et tous ceux qui, Zlatan et tous ceux qui sont rentrés quand même sur cette musique, Yoro.
Moi, cette musique, elle me rappelle plutôt le match PSG Real de Madrid en 93 avec cette tête de Comboiré. Je voyais ses visages quand il sortait du vestiaire. Il y avait Georges Weah devant qui avait inscrit le premier but. À l'époque, c'était pas le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui,
mais c'était quand même Phil Collins.
Ce qui est important, c'est qu'on touche pas. C'est une marque de l'identité des clubs, ces musiques. Je sais que récemment, du côté du Paris,
ils ont essayé.
Dites-le. Parce que
j'ai cru comprendre qu'il y a un moment qu'il y avait.
Non, il y a eu.
DJ Snake.
Voilà,
Snake.
C'est ça. Ouais, je crois que sans qu'on lui demande son autorisation d'ailleurs, parce que je crois qu'il est revenu dessus lui-même sur les réseaux sociaux en expliquant que ça ne lui donnait absolument pas envie qu'on change cette musique de Van Halen. Hein. C'est Van Halen, du côté du Paris Saint-Germain.
Phil Collins.
Van Halen, c'est Marseille.
Ouais, c'est Marseille. Mais c'est des marqueurs d'identité parce que.
Complètement. Ils sont revenus à ça, en fait.
Je pense qu'il faut quand même conserver des choses comme les couleurs des maillots des clubs. Les troisième maillot, j'en peux plus. Enfin, je vous le dis honnêtement. Enfin, je sais que c'est du marketing, du business. J'ai l'impression parfois d'être sur l'autoroute avec des. Vous savez, quand on met des gilets pour s'identifier dans la nuit, quoi. Non, mais ça devient n'importe quoi.
En général, les clubs ont assez de couleurs pour faire un troisième maillot différent sans trahir les couleurs du club. Ouais. Et pourquoi des maillots de couleur violette, orange, c'est terrible.
On sait pourquoi.
Alors sur le PSG, ils avaient aussi à une époque la musique de Batman en musique d'entrée, la Bat Dance, là, de Prince. Et il y avait une chanson du PSG sur l'air de Go West de Village People ou des Pet Shop Boys qui avait été produite dans les années 90. Mais bon, c'est surtout celle-là qui est identifiée au club, effectivement.
Voilà encore un petit extrait. Celui-ci nous rappelle une compétition particulière, une compétition évidemment de football. Qu'est-ce que ça vous rappelle?
C'est Gala, c'est Freed from Desire, c'est un tube Eurodance des années 90 et c'est devenu un petit peu la musique de la Coupe de France.
Hein. Non, l'Euro 2016.
Alors ça c'était,
Will
Griggs on the Fire.
Oui, bien joué.
Ce joueur qu'on n'a pas vu.
Ouais, extraordinaire.
Il n'a pas joué, mais en tout cas il nous a donné la meilleure musique.
C'était hyper sympa.
Hein, ça avait donné toute une ambiance. Dans le pays. Il y avait le clapping
des
Islandais et puis il y avait cette chanson qui nous est restée un peu entêtante, faut bien dire. Allez, pour terminer, Nabil, vous aviez choisi une chanson qui, évidemment, rappelle là un personnage et une idole. Alors, ce Life is Life, qu'est-ce que ça vous rappelle, vous, Nabil?
Ça me donne des frissons déjà et ça me rappelle Diego Maradona en train de jongler avant un match comme un enfant avec des jongles, c'était en Italie avec
le maillot du Napoli.
Et puis En fait, il jonglait tellement bien qu'on rêvait tous de jongler aussi bien que lui, mais je pense que ce n'est pas possible.
Donc vous écoutez la musique, ça ne vous fait pas jongler aussi bien que Maradona?
Ah bah, c'est un extraterrestre, c'est un extraterrestre. Donc c'est ça, en fait. Et puis, tu sais, une facilité avec de l'allégresse, avec de la joie. Et en fait, c'était un spectacle avant le spectacle. Extraordinaire.
Et même parfois meilleur que le spectacle principal.
Ouais, ça c'était Maradona. Et Maradona, on pense aussi au film de
Emir
Kusturica
avec Manu Chao,
où il chante et où Manu Chao lui chante, ouais, une chanson aussi. Voilà un peu les refrains qui tout de suite sont en tout cas, ouais, dans alors, l'esprit de ceux qui connaissent le football.
Juste une petite précision sur la musique d'Alan Parsons. J'ai cité Bjeković, c'est un petit peu après que cette musique est apparue, mais rétrospectivement ça me rappelle aussi tous mes premiers matchs, donc j'ai un peu mélangé deux époques, mais je m'en excuse auprès des puristes de l'OGC Nice.
Voilà. Mais les amoureux de l'OGC Nice vous pardonnent déjà,
voilà,
j'en suis sûr.
Merci à eux.
Allez, on continue, nous, et on va vers un sujet un peu plus sérieux.
À vous entendre, on a l'impression que jusqu'à présent, l'OL est un club artisanal et que demain, vous lui faites franchir assez rapidement le stade industriel.
Aujourd'hui, nous avons l'ambition, d'une part parce que les circonstances sont favorables, mais aussi parce que, je crois, d'autres clubs ont montré la voie, de pouvoir constituer un ensemble qui est à base, bien sûr, d'économie et de structure juridique, mais qui laisse aussi, bien entendu, le pouvoir aux sportifs.
C'était en 1987. L'homme d'affaires Jean-Michel Aulas prenait les rênes de l'Olympique Lyonnais, un Français qui reprenait un club français qui était alors en deuxième division, comme on disait alors. Et 35 ans plus tard, eh bien, peut-être qu'on peut dire qu'il a tenu ses promesses, une réussite de Jean-Michel Aulas avec une remontée en deux ans. Alors certes, quand on réécoute, notamment sur les archives de l'INA, ce qu'il disait, il avait promis que dès les années 90, il serait en tête du championnat et qu'il redisputerait la Ligue des Champions. Bon, ça a pris un peu plus de temps, surtout pour être champion. Mais une fois qu'ils ont été champions, c'était 7 titres de champion de France. On se souvient des stars, et notamment Juninho ou Sonny Anderson, les Brésiliens. Il y a aussi 2 demi-finales de Ligue des Champions, celle de 2010 et de 2020. Et puis surtout, il y a aussi dans tout cela le stade, le stadium de l'OL avec ses 60 000 places. Mais c'est donc la fin d'une époque qui a sonné tout à l'heure. Clap de fin. Le bébé était à vendre et c'est un beau bébé. C'est un investisseur américain qui vient d'être présenté dans une conférence de presse cet après-midi à Lyon. Un certain John Textor, qui possède déjà plusieurs clubs de football, notamment au Brésil, le, oui, Botafogo de Rio de Janeiro, l'ancien club de Garrincha, d'où le lien brésilien. Il a aussi un club en deuxième division belge, le club de Molenbeek. Il a des actions dans le club anglais de Première Ligue, Crystal Palace. Cet après-midi, on va l'écouter. Il s'est donc exprimé aux côtés de Jean-Michel Aulas et il a déjà compris ce qu'il fallait dire aux supporters.
Je pense que ma première suggestion serait déjà de prendre exemple sur les femmes, tout d'abord. Non, je plaisante. Vous savez, j'ai dit quelque chose de très bête au Brésil lorsque nous avions acheté Botafogo, lorsqu'ils étaient en deuxième division. Ils avaient un passé beaucoup plus difficile, n'avaient rien gagné depuis plusieurs décennies. Donc, et quand vous voyez que maintenant on a réussi à battre les Flamengo l'année dernière. Bon. Mais moi, je pense que vraiment éveiller, c'est quelque chose de très important. Et je sais qu'on veut gagner des championnats. Jean-Michel veut revenir sur la scène européenne et gagner à niveau européen. Je pense que c'est possible. Moi, je veux vraiment gagner la Champions League, une Ligue des champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça.
Alors, il se dit passionné de football, John Textor. Est-ce que, selon vous, ce projet est crédible? Parce que Nabil Djellit, on connaît les refrains quand même. Frank McCourt avec l'OM, c'était le Champion Project, on s'en souvient. Et puis Nasser et Leonardo, quand ils sont arrivés au PSG, on se souvient que tout de suite, ils ont promis de gagner la Ligue des Champions. Et ils n'ont toujours pas ni l'un ni l'autre gagné.
Bah, ce que je trouve qui est bien déjà, c'est qu'on voit une personne en fait, qui représente ce projet. De plus en plus dans le football, c'est des fonds d'investissement avec l'immatérialité et des propriétaires que vous ne voyez jamais. Vous entendez parler du fonds Elliott ou d'autres fonds. Donc j'ai l'impression que c'est
777 partenaires.
Voilà, donc j'ai l'impression que comme pour McCourt, à qui on peut éventuellement reprocher des choses, au moins ils incarnent eux déjà un projet. C'est quelque chose pour moi qui rassure en quelque sorte. Ce qui me rassure aussi, c'est que l'homme qui cède en partie son club c'est Jean-Michel Aulas.
C'est-à-dire aussi un homme d'affaires.
Un homme d'affaires, mais aussi avec un lien affectif
qui est toujours là.
Très important. Donc ça va se faire avec une transition en douceur. Il va conserver des prérogatives. Donc je pense que c'est pas des fonds voraces qui arrivent pour reprendre l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, vous avez des fonds américains qui sont parfois des réussites.
On va y venir.
Voilà, Milan, Toulouse, par exemple, plus récemment chez nous. Moi, j'ai l'impression que c'est un projet qui tient la route, mais qui devra se confronter à la réalité du foot business aujourd'hui. Ils sont pas là non plus pour perdre de l'argent.
Ouais, ça c'est sûrement la raison de leur présence Euro. Est-ce que pour vous c'est une bonne passation finalement, parce que ça fait quelque temps que Jean-Michel Aulas devait céder son club.
Une bonne passation, je sais pas. En tout cas, je crois que ça pourrait être mieux que ce qu'on a vu. Sauf que pour les supporters, faut pas non plus rêver. C'est pas le Qatar, c'est pas Abu Dhabi. Ils vont pas injecter des milliards déjà pour ce mercato.
Pas des puissants fonds.
Exactement.
Il y a d'autres modèles, et heureusement.
S'il y a d'autres modèles, Liverpool est sous pavillon américain, Man United, etc. Et
exactement.
Pourtant, c'est des clubs qui fonctionnent. Donc là, il faudrait qu'il y aille avec la pédale douce et ne pas trop rêver.
Patrick Juillard.
Je pense que Jean-Michel Aulas a un petit peu échoué dans les années précédentes dans sa volonté de déléguer. L'expérience Juninho n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Vincent Ponceau, ce n'est pas une réussite non plus.
Le Covid a accéléré tout.
Et là, on a une coloration américaine qui était déjà présente avec Tony Parker. On avait parlé de lui pour un peu succéder à Aulas. Et finalement, je pense qu'Aulas, comme il n'a pas d'héritier direct, comme c'était le cas pour Louis Nicolas à Montpellier, il a trouvé une opportunité de vendre. Le ticket d'entrée n'est pas trop élevé pour un investisseur comparé au club anglais, par exemple. Je pense que c'est un marché plutôt bien pensé, surtout qu'il va rester au moins 3 ans encore à gérer le club, à tenir les manettes. Donc ça me semble plutôt bien engagé, sachant qu'en plus, ce nouvel investisseur américain va mettre 86 millions d'euros au pot pour le recrutement. C'était une des conditions de la cession. Tout ça, c'est plutôt de bon augure pour l'OL, je pense.
Nous sommes en ligne avec un de nos confrères qui dirige aujourd'hui un site consacré à l'économie du football qui s'appelle News Tank Football. Dominique Courdier, bonjour.
Bonjour.
Dominique, est-ce que pour vous, ce qu'a déclaré John Textor tout à l'heure et comme se présente le projet, vous trouvez que c'est intéressant et encourageant ?
Bien, ce qui est encourageant, comme l'a dit tout à l'heure Djabil, c'est qu'effectivement, Jean-Michel Aulas reste aux manettes pour l'instant. Et Jean-Michel Aulas, qui est là depuis 35 ans, pense beaucoup à l'après et à la trace qu'il va laisser. Il a construit quelque chose et il n'a pas envie que cet empire s'effondre à son départ. Il a 73 ans, il a trouvé effectivement que c'était le bon moment pour céder le club. Il reste aux manettes, c'est une passation en douceur, avec un Américain qui est là, évidemment, en songeant déjà à la plus-value qu'il va réaliser avec le club. Parce qu'un investisseur américain n'arrive pas dans un club sans songer déjà à une éventuelle revente. Ça ne veut pas dire que ça se fera demain, hein. Ça peut se faire à moyen terme, ça peut même se faire dans 10 ans. Mais voilà, il prend le club aujourd'hui, il doit l'emmener plus haut et le vendre plus cher. Voilà son raisonnement business. Ça n'enlève rien à son amour du football, qui est sans doute sincère. Et il investit aujourd'hui à Lyon. Et le fait que Jean-Michel Aulas reste là, je pense que c'est un signe plutôt positif.
Oui, c'est en tout cas un garant de connaissance et de la Ligue 1 et du contexte du club. Est-ce que cet investisseur américain, on voit qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains qui sont arrivés ces derniers temps dans le football français, en Ligue 1 à Toulouse et bon, donc Franck McCourt à Marseille. On en a aussi, on avait un candidat, alors il est un peu disparu avec la descente, mais à Saint-Etienne. En Ligue 2, on a aussi deux clubs, Caen et Le Havre. Le Red Star à Paris, à Saint-Ouen, vient d'être, en national, vient d'être acheté. Il y avait aussi cet exemple de Nancy. Alors, peut-être que le contre-exemple dans tout ça, c'est Bordeaux. Mais est-ce que les investisseurs américains découvrent le football français ?
Ah, ils le découvrent pas tout à fait. Ça fait quelques années donc, qu'ils s'y intéressent. Il faut bien avoir une idée. On a tendance en France, on a un complexe par rapport à nos grands voisins. Hein. Soudain, on est les petits du top 5 européen, on est plus petits que nos 4 grands voisins. Vu des États-Unis, la France, c'est déjà un pays qu'ils aiment beaucoup. C'est un pays qui est champion du monde de foot. C'est un pays qui a remporté deux des six dernières Coupes du Monde. Et c'est le pays aussi qui forme des joueurs et qui vend des joueurs. C'est aussi le pays de Paris, qui est un exemple. Aujourd'hui, la marque, j'entends Paris Saint-Germain. Bon, il y a non seulement Paris, évidemment, qui fait rêver les Américains, mais il y a la marque Paris Saint-Germain est devenue une marque mondiale. Et évidemment, on ne peut pas imaginer que Lyon puisse faire, que M. Textor fasse avec Lyon ce que le Qatar a fait avec Paris. Mais simplement cet exemple, hein, Paris Saint-Germain a été racheté 70 millions en 2011, il vaut aujourd'hui 3 milliards, c'est-à-dire 42 fois plus, 11 ans plus tard. Voilà une plus-value que réalise le Qatar avec la marque Paris Saint-Germain. M. Textor n'a peut-être pas cet objectif en tête, mais disons que le football français, champion du monde, avec la marque Paris comme locomotive, et des clubs qui ne sont pas chers, parce que les clubs anglais aujourd'hui sont inaccessibles, les clubs allemands ne peuvent pas être achetés à cause d'une loi qui empêche à des investisseurs étrangers de prendre une majorité dans un club, les clubs espagnols, bah, les grands clubs appartiennent à leurs sociaux, et on est en rivalité avec des clubs italiens qui ont des structures, des infrastructures qui sont moins bonnes que les nôtres. Donc voilà pourquoi le football français intéresse.
Et Lyon coche toutes les cases, Dominique. Ils ont un centre de formation qui a été performant. Ils ont un stade dont ils sont
propriétaires.
Ils ont une histoire. Et exactement, c'est la deuxième ville ou troisième ville de France. Je ne veux pas vexer les Marseillais.
Et ils investissent dans le foot féminin aux États-Unis. Le foot féminin aux États-Unis qui est bien plus important que le foot masculin. Hein. Les Américaines sont championnes du monde. On s'en rappelle, elles étaient à Lyon. En plus, et ils ont racheté donc une franchise aux États-Unis. Ils ont actuellement, l'OL est considéré comme le meilleur club de football féminin du monde. Et ça, vu des États-Unis, c'est quelque chose d'important aussi.
Oui, et d'ailleurs, hein, c'est l'exemple qu'ils donnent en disant il faut que les garçons fassent aussi bien que les filles, pour une fois qu'on donne les filles en exemple. Mais Dominique, est-ce que c'est facile de rentabiliser, parce qu'on pense à l'exemple de Bordeaux. Est-ce que Bordeaux, simplement, ils n'ont pas su s'y prendre? On a eu deux fois des investisseurs américains. Alors maintenant, c'est carrément la faillite avec l'investisseur luxembourgeois qui est Gérard Lopez. Mais est-ce que c'est simplement un contre-exemple et un mauvais exemple, Bordeaux?
Non, mais investisseurs américains, je veux dire, les investisseurs américains, il y a tout dans les investisseurs américains. Hein. C'est pas une usine dont sortent des clones avec tous le même goût pour le sport, les mêmes qualités de management, la même fortune, etc. La même façon de déléguer ou pas. Donc, il y a tous les modèles. Donc, évidemment, il continuera à y avoir des échecs et beaucoup d'échecs parce que le sport est une industrie qui est quand même très particulière, où, comme le disent souvent les décideurs, eh bien, un tir qui va heurter la barre au lieu de passer en dessous, eh bien, va changer le destin d'une équipe qui remportera la Ligue des Champions ou pas. Et avec des droits, on le voit avec les problèmes de relégation, on le voit avec Bordeaux en ce moment, une équipe qui passe de la première division à la deuxième, c'est une catastrophe absolue au niveau économique, alors que dans tout autre secteur de l'activité économique, être simplement perdre une place et passer de la 20e à la 21e, par exemple, au niveau mondial, c'est pas obligatoirement une catastrophe, alors que là, on change d'échelle.
Mmh.
C'est du sport une spécificité.
Est-ce que selon vous, alors on évoquait tout à l'heure Franck McCourt, parce que c'est vrai que c'est une personnalité et c'est une tête qui préside et qui est propriétaire d'un club, est-ce que selon vous, il réussit avec Marseille?
Aujourd'hui, Marseille est quand même un club qui va disputer la Ligue des Champions cet automne, qui a un stade, un très beau stade, un stade qu'on reconnaît en plus, qui a un public, qui a une histoire, et faut encore lui donner un peu de temps, parce que le foot nécessite du temps. Regardez le Paris Saint-Germain qui court après sa Ligue des Champions depuis 11 ans, qui n'y est encore pas arrivé.
Ouais.
Marseille, le bilan sera fait peut-être le jour où McCourt quittera Marseille. Mmh. Et on verra s'il a fait une bonne opération ou pas.
Patrick Juillard,
au fait...
Pardon, euro.
Euro.
Il y a investisseurs et investisseurs. Parce que les gens, ils ont l'habitude ici de tout le temps revenir sur l'affaire Colonie Capital qui avait pris
le PSG
juste après Canal et qui a eu du mal à gérer avec toute cette histoire qu'on a connue. Le club a failli descendre en deuxième division, en Ligue 2. Et puis, parce qu'à Colonie Capital, comme disait Nabil, on ne connaît personne. C'était juste une marque.
Des investisseurs,
après, il y a des gens qu'on connaît comme Gérard Lopez et qui ne vous rassurent pas
voilà,
non plus.
Ouais. Heureusement qu'à Marseille, il y a Macourte, sauf qu'il faut aujourd'hui que les supporters et de l'Olympique de Marseille et de Lyon sachent qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui achète une entreprise pour d'abord faire des bénéfices. C'est différent du Qatar ou...
C'est une entreprise d'image.
Exactement, qui vendent une image et qui sont dans la géopolitique. Enfin,
ils ne sont pas là non plus pour perdre de l'argent, les Qataris. Parfois, on se trompe. Et c'est bien que Dominique nous ait rappelé quand même. Moi, le chiffre, je le découvre.
Oui.
Ils sont passés de 70 millions d'achats à aujourd'hui une entreprise qui est valorisée à 3 milliards. C'est absolument monstrueux.
Et les amateurs de bourse vous diront aussi qu'il faut toujours acheter à la baisse. Et acheter aujourd'hui l'OL, c'est peut-être le bon moment pour l'acheter.
Mmh. Oui, après leur saison un petit peu en demi-teinte, puisqu'ils sont 8e du championnat, ils ne sont pas en Ligue des Champions, voilà. Ce qui était un de leurs objectifs. Patrick Julliard.
C'est une question, comme nous l'a bien dit Dominique, c'est une question de ticket d'entrée. Les clubs anglais sont trop chers, les clubs espagnols et allemands, pour diverses raisons, ne sont pas accessibles. L'OL, c'est un très bon choix, parce que c'est un club qui a aussi... Il faut le rappeler, une vraie culture européenne, c'est souvent, même si leur saison globalement n'est pas toujours des meilleures, c'est souvent le club français qui est le plus présentable en Coupe d'Europe, quel que ce soit l'Europe, la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Il y a une vraie tradition de bien se comporter, alors que par exemple, ce qui, à mon avis, ternit à contrario le bilan de Macourte à l'OM, ce sont les campagnes européennes de l'OM en Ligue des Champions qui donnent quand même une image pour un club qui est un ancien vainqueur, une image quand même assez pitoyable de leur niveau. Et ça, je pense que c'est une bonne base pour construire quelque chose de solide à l'OL, sachant que Jean-Michel Aulas est encore dans les tuyaux. Et il a bien dit, c'était pas une condition absolue pour céder le club que je reste en poste quelques années, mais ça a beaucoup aidé. Et je pense que l'ego de Jean-Michel Aulas est aussi bien soigné. Non, mais il est bien soigné par les conditions du
bien
deal,
sûr,
quoi,
du transfert.
Et vous me permettrez d'ajouter que l'OL a une belle image internationale. Ils ont une belle image internationale en Amérique du Sud, où ils ont utilisé beaucoup de bons joueurs brésiliens. Mm-hmm. Ils ont une bonne image aux États-Unis avec leur équipe féminine, une bonne image en Europe, où ils ont quand même participé un certain nombre de Ligue des Champions, et une bonne image aussi en Asie. Il y avait leur actionnaire chinois là, qui détenait 20% du club, qui va les céder, et qui fait que c'est un club qui a une bonne image au niveau international, pas seulement en France.
Et même à Dakar, Euro, parce qu'ils ont un club, ils sont associés avec Dakar Sacré-Cœur.
Ils sont associés avec Dakar Sacré-Cœur, ils ont une belle image aussi en Afrique, puisqu'il y a pas mal de joueurs africains qui sont passés là-bas, Feu Marc Vivien, Fouré,
Diarra, Essien,
et pas mal d'autres joueurs africains.
Merci beaucoup Dominique de vos lumières sur ces investisseurs et sur cette offensive dans le football français, mais qui, à vous écouter, eh bien, est plutôt intéressante et peut rendre peut-être, qui sait, la Ligue 1, la Ligue des talents, encore plus talentueuse. Merci beaucoup Dominique de votre éclairage. À très bientôt.
À votre service.
Merci. Pour conclure, on parlait de musique tout à l'heure. Allez, encore un petit refrain. Mais alors, parce que ce John Textor, expliquons qui il est. Il a 56 ans, c'est donc un homme d'affaires américain. Qui connaît cette musique?
Oui, c'est dans Gladiator.
Non, pas loin.
Dans Star Wars.
Pirates des Caraïbes.
Ah oui, Pirates des Caraïbes.
Voilà, il a fait des investissements, alors jusqu'à présent, plutôt du côté d'Hollywood. Ouais. Il était connu comme étant le gourou de la réalité virtuelle à Hollywood. Et c'est notamment lui qui a réussi la performance de transformer Brad Pitt dans l'étrange histoire de Benjamin Button.
Ah oui, oui, oui.
Ça l'avait rendu très, très célèbre. Voilà. Et puis il a fait beaucoup d'hologrammes. Vous allez voir un concert aujourd'hui de Michael Jackson, vous le voyez devant vous en hologramme, alors qu'il a disparu, évidemment, depuis très longtemps. Donc on apprendra,
c'est intéressant,
à découvrir John Textor.
Il peut faire des joueurs virtuels qui marquent des buts ou pas?
Bah, peut-être qu'il fera jouer Pelé en numéro 10 dans l'équipe de Lyon et que ça changera le destin d'un match. On continue et on termine avec une belle histoire d'un club d'Abidjan.
C'est nous les meilleurs, on n'est pas beaucoup, on est un.
Champion et invaincu, les Mimos d'aujourd'hui à la hauteur de la légende de ce club qui avait remporté en 1998 la Ligue des champions d'Afrique. Les jaunes et noirs de la SEC Mimosa et donc d'Abidjan ont remporté le 28e titre de champion de Côte d'Ivoire à 4 journées de la fin après leur victoire de 1 sur le Racing Club. Toujours d'Abidjan, l'équipe voudrait terminer invaincue, bien sûr. Écoutons l'entraîneur Julien Chevalier, il veut y croire et il dresse déjà le bilan de cette saison incroyable au micro de Mohamed Lamine, le correspondant d'RFI.
Le bilan, il est pour le moment exceptionnel et quoi qu'il arrive, il le sera parce que maintenant, on va devoir finir cette saison en brandissant le trophée, l'image du champion, mais de toute manière, on a fait le travail et les joueurs ont été exceptionnels. On a donné toutes nos forces dans la Coupe d'Afrique. Il faut respecter le parcours qu'on a fait parce que quand on regarde l'état du foot ivoirien, c'est difficile de faire beaucoup mieux et on n'était pas loin de faire un exploit. On est revenu en phase de poule, personne ne l'avait fait depuis la SEC. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là.
23e journée donc, et il cumule pour l'instant 19 victoires pour 4 matchs nuls. Yoro, je les ai appelés les invaincus, mais il y a évidemment une image dont on se souvient tous, c'est les invincibles du côté d'Arsenal. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent terminer invaincus?
C'est possible, parce que là ils sont en roue libre, c'est la meilleure équipe ivoirienne de ces dernières années. Je crois depuis qu'il n'y a plus cette
rivalité.
Africa Sport,
oui, la rivalité avec
Africa Sport d'Abidjan.
C'est plus San Pedro aujourd'hui.
C'est San Pedro, mais voilà, la SEC, c'est une grande équipe. Moi, c'est une équipe que je n'arrive pas à oublier parce que dans les années 80-90, quand il y avait ce derby entre la SEC d'Abidjan et l'Africa Sport d'Abidjan, j'écoutais ces rencontres. C'était en direct à la radio sur Africa numéro 1 avec un certain Kaboulo, Mana Kaboulo, qui retransmettrait ses.
On entend sur connu
par ici, ouais.
Exactement.
On le connaît bien.
Et on le vivait en direct. À l'époque, il y avait quand même un ballon d'or dans cette équipe, Abdoulaye Traoré, qui marquait but sur but, qui était pour moi l'un des meilleurs joueurs africains à l'époque. Et il jouait à l'Africa Sport, il jouait à la SEC. Ils avaient les moyens de garder les meilleurs joueurs sur le continent. Mm-hmm. Et ils avaient des fonds, ils avaient tout à l'époque. La SEC d'Abidjan, c'était comme un club européen dans les années 80-90.
Patrick Juillard, alors ils étaient champions l'année dernière, hein, mais après, il fallait remonter à 2018. Et c'est vrai que, surtout sur la scène africaine, ils sont moins performants, la SEC Mimosa. Mais on connaît le contexte du football africain aussi.
Bah, tous les clubs d'Afrique de l'Ouest sont en retrait sur la scène africaine. Ça se joue en général entre les clubs d'Afrique du Nord,
ouais,
l'Égypte et puis les Sud-Africains. Et bon, il y a eu des exceptions comme le tout-puissant Mazembe, le Oroya qui essaye de copier dupliquer un peu ce qu'a fait Moïse Katumbi à Lubumbashi, qui essaye de le dupliquer à Conakry, mais c'est difficile. Il y a Simba en Tanzanie, mais effectivement, en Afrique de l'Ouest, les clubs souffrent beaucoup du départ précoce de leurs joueurs.
Ah oui.
Et d'ailleurs, certains des joueurs qui ont tiré vers le haut cette équipe sont déjà partis en Europe ou sont courtisés.
Ou sont pas.
Karim Konaté, qui a signé avec le Red Bull Salzbourg, donc qui fait maintenant partie de la galaxie Red Bull. Donc, on peut penser qu'une belle carrière.
On espère que ça va lui donner des ailes.
Mais là où c'est et puis Stéphane Aziski, donc le.
Faut rire à la blague de votre camarade.
Patrick, quand il parle de football africain, il est folu. Il est focus.
Ouais. Et Stéphane Aziski, le jeune burkinabé, qui lui aussi pourrait rejoindre l'Europe.
Ce qui peut compliquer.
Qui est aussi courtisé, paraît-il, en Tanzanie.
Une campagne continentale.
Et en fait, là où c'est intéressant pour la SEC, c'est qu'ils vont récupérer de l'argent sur les transferts. Ce n'est pas comme Dian Barthes ou Génération Foot, quand ils cèdent leurs joueurs à leur club jumeau, entre guillemets. Ils ne récupèrent de l'argent qu'à partir du moment où Metz ou Marseille transfèrent ces joueurs-là. Là, la SEC va récupérer des fonds et ça peut être une manière de faire grandir le club. Alors, c'est toujours dommage de perdre un de ses meilleurs éléments, mais je pense que ça peut être une manière de structurer encore mieux ce club qui est déjà le club quand même numéro un en Côte d'Ivoire. Donc, comme le dit Julien Chevalier, ils ont un peu, dans l'interview qu'on a entendu, ils ont un petit peu, comme on dit, surperformé. Mais je pense qu'ils ont les moyens de construire quelque chose sur un cycle de 4 ou 5 ans. Là.
Je crois que c'est ce qui a d'ailleurs causé cette chute de l'ASEC d'Abidjan. Depuis qu'ils ont eu cette académie à côté pour former, les premiers, c'était les Okora, Yaya Touré, Kolo Touré, etc.
Les Eto'o.
Et exactement.
C'était Guillou, hein, déjà.
C'était avec Jean-Marc Dindané, tout ça. Parce qu'avant, c'était des joueurs, de grands joueurs ivoiriens qui signaient à la SEC d'Abidjan. Ouais. J'ai juste une petite liste ici de cette équipe qui a joué la finale de 98. Sam Dobo Dominique, qui est là, hein, qui vit à Vitry-sur-Seine. C'est le président, d'ailleurs, des anciens internationaux ivoiriens. Il y a Blaise Kouassi.
J'étais à Guingamp ensuite.
Voilà, il y a des joueurs comme Donald Siedonal, qui est un excellent milieu de terrain, qui a joué, je crois, à Saint-Étienne, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça, parce que la SEC forme et vend. Et depuis, l'équipe n'arrête pas de chuter sur l'échiquier du football africain.
Oui, parce que c'est dur de garder des joueurs 3 ou 4 ans pour vraiment faire monter une génération. Ce qu'avait fait à une époque le tout-puissant Mazembe, qui avait les moyens de donner des bons contrats et de garder ses joueurs.
D'essayer
parfois
de les conserver.
Un peu trop par la suite, mais au départ, c'était bien pensé. Et là, la SEC, avec l'argent des transferts, notamment de Konaté, peut peut-être construire quelque chose un peu plus durablement et se donner les moyens de conserver un peu plus ses meilleurs éléments pour que ça dure. On leur souhaite en tout cas.
Non, on leur souhaite, ça ne va pas être simple. Après, il y a aussi la compétitivité dans leur propre championnat parce que
faut pas un manque de concurrence.
Voilà, et c'est Wade San Pedro qui travaille bien ces dernières années. On voit la SEC qui repointe un peu le bout du nez. Mais tout de suite, vous perdez quasiment votre meilleur joueur. Enfin, votre pépite, elle s'en va tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est difficile de s'installer dans le temps. Moi, en tout cas, comme souvenir, on parlait tout à l'heure de souvenirs avec la musique et tout, j'ai vu beaucoup d'équipes africaines, d'Afrique subsaharienne venir jouer en Afrique du Nord, contre les clubs tunisiens, algériens, marocains. Et l'équipe qui m'a le plus impressionné, je n'oublierai jamais, c'est la SEC d'Abidjan, au début des années 2000, qui était venue en Algérie jouer contre l'USM Alger, qui était une très bonne équipe. J'ai jamais vu une équipe algérienne se faire jongler comme ça à domicile. Je crois qu'ils en avaient pris 5. Et ça m'avait marqué.
Il y avait des Didier Otokoré, tout ça.
Il y avait Zezeto, il y avait Haruna Dindene. Et c'était un football
qui a joué après.
Un peu brésilien.
C'était incroyable. Et c'est vrai que tu as raison. Ils ont disparu, concrètement. Ils ont disparu. Là, ils reviennent. Mais ça reste loin de ce que ça a été. Et en plus, bon, vous êtes en train de m'expliquer par A plus B que de toute façon, ça ne risque pas de durer. Puisque si vous perdez vos meilleurs joueurs, c'est ça le problème du football. C'est des footballs d'académie et les joueurs partent.
Alors oui, c'est un football d'académie sans doute dans le style, mais là, je répète, le club touche de l'argent sur les transferts. Les académies d'Ambars, Génération Foot, ne touchent de l'argent qu'à partir du premier transfert du joueur depuis son club européen.
La chance qu'a la SEC, d'ailleurs, je crois que ils évoluent dans un championnat. C'est le seul qui a été acheté par Canal et qui diffuse les matchs en Afrique.
Ouais.
C'est bien produit. C'est le seul championnat qu'on peut suivre quand on est sur le continent africain.
Mmh. Oui, et du coup, ça permet de donner des revenus
des droits
au club.
TV,
voilà. Des droits télé et qu'ils aient une assise.
Pour la petite anecdote, le Karim Konaté qui a signé au Red Bull, il était trop proche en fait de signer à Lens. Et pour Lens, ça a été une énorme déception de le voir partir du côté.
Moi, je l'ai vu, c'est un excellent footballeur.
Un attaquant, il est bon, il est rapide, il est complet et il a une grosse marge de progression. Bon, moi, j'aurais préféré le voir à Lens, très sincèrement. Mais c'est un autre débat.
Dans la Ligue 1 des talents, disait-on tout à l'heure.
Exactement.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs.
Merci
au maestro Salerno qui aujourd'hui a mis en musique nos débats.
Salerno.
DJ Salerno. On se retrouve demain pour Radio Foot International pour continuer à parler football. Merci à tous.